sa situation pécuniaire redevient assez précaire. La pension que doivent lui allouer, d'après une promesse écrite, ses admirateurs princiers, ne lui est payée désormais que fort et régulièrement. Malgré cette gêne, Beethoven n'hésite pas à engager un procès dispendieux pour obtenir la tutelle de son neveu Karl. C'est pour Beethoven une nouvelle source d'inquiétude. Avec l'aide de son avocat Bach, doyen à la faculté de droit de Vienne et descendant, qui sait, du grand compositeur Jean-Sébastien Bach, il lutte avec une incroyable véhémence pendant 4 ans pour avoir finalement gain de cause et arraché à une mère peu digne cet enfant de 9 ans. Beethoven s'enthousiasme, s'exalte à l'idée de pouvoir jouer le rôle d'un père adoptif et de prendre ainsi une éclatante revanche sur la vie.
Karl, es-tu heureux de vivre avec moi ?
Oui, monsieur.
Ne me nomme pas ainsi. Je suis ton oncle, voyons. Et je veux de plus te traiter comme mon propre fils.
Oui, monsieur Beethoven.
Ne sois pas effrayé, mon petit. Je ne suis pas un ogre. Je suis un homme, comme les autres. Si tu as été battu par tes parents, sous mon toit, il n'en sera rien. Je veux ton bien. Je veux faire de toi un homme sensible et intelligent. Tu comprends, n'est-ce pas? Et pour commencer, dès demain, tu iras bien sagement et bien régulièrement à l'école.
Tous les jours?
Oui, tous les jours, comme les autres garçons de ton âge. Quelle question!
Bien, mon oncle.
Malgré toute la bonne volonté déployée par Beethoven, l'adoption de son neveu n'est pas pour lui une récompense. Bien au contraire, Karl, en grandissant, devient un être fort insignifiant. Pendant toute cette période d'angoisse et de soucis extrêmes, Beethoven écrit peu. Sa vie est devenue plus que jamais morose et casanière. Elle ne se passe plus guère qu'entre les murs de son modeste logis viennois, avec de temps à autre un séjour à Enzensdorf, à Baden, où il compose cette somptueuse ouverture pour l'inauguration du théâtre de Vienne. À la villa de son frère, Nicolas Johann, pharmacien enrichi par la guerre et qui ne comprend pas son génie. C'est cet homme qui envoie un jour à Beethoven une carte où figurent en tête ces deux lignes.
Nicolas Johann van Beethoven, propriétaire foncier.
Et à qui le compositeur réplique par une carte débutant ainsi.
Ludwig van Beethoven, propriétaire d'un cerveau.
À partir de 1818, Beethoven se remet à la composition et les dernières années qui lui restent à vivre vont être jalonnées de ses chefs-d'œuvre les plus achevés. Il écrit celles qui seront ses 4 dernières sonates pour piano, dont la gigantesque sonate opus 106, dédiée à son impérial élève, l'archiduc Rodolphe. Il donne à la musique religieuse, qu'il avait peu pratiquée, une monumentale messe solennelle. Il termine encore, en 1824, sa 9e symphonie, où pour la première fois dans l'histoire de la musique, un compositeur met un point final à une symphonie de dimension inaccoutumée, en jetant dans le feu longtemps attisé de l'orchestre les airs bouillonnants de joie de 4 chanteurs solistes et d'une imposante masse chorale.
Thank you.
Le 7 mai de cette même année 1824, à Vienne, Beethoven, âgé alors de 54 ans, paraît pour la dernière fois en public, à l'occasion de la première audition de cette 9e symphonie, qu'il voulut diriger malgré sa surdité complète. L'exécution en souffre beaucoup, vous le pensez bien, mais le succès n'en est pas moins triomphal. Un fait bien émouvant est attaché à ce concert mémorable. Après l'ode à la joie de Schiller, qui clôt la symphonie, Beethoven n'entend pas les applaudissements frénétiques qui saluent son œuvre. La cantatrice Caroline Unger, qui venait de chanter l'une des parties solistes tout près de lui, prend Beethoven par la manche et le retourne, pour ainsi dire, vers le public, son dernier public, en vérité.